Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. 15 jours après sa démission choc depuis l'Arabie Saoudite et le risque d'un engrenage violent dans la région, le Premier ministre libanais Saad Hariri vient d'arriver à l'Élysée. Médiation française à la manœuvre pour faire baisser les tensions. Nous serons en direct depuis l'Élysée avec Olivier Poujade au début de ce journal. Cette médiation française d'Emmanuel Macron au Moyen-Orient, elle ne plaît pas aux Iraniens. Téhéran, qui n'a pas apprécié les commentaires du chef de l'État hier sur son programme balistique, va nous dire Siavoj Ghazi. Des scènes de liesse dans les rues d'Harare, la capitale du Zimbabwe, en ce moment même. C'est comme si la démission du président Mugabe était actée. Sur le plan politique, pourtant, les tractations se poursuivent. Nous ferons le point avec Nabila Hamel. En France, ils veulent marcher sur l'Élysée. Un front social contre les ordonnances travail se structure à l'initiative de l'ancien syndicaliste de chez Goodyear, Michael Wamin. Manifestation à Paris cet après-midi et explication de Laurent Kramer dans un instant. Enfin, à 12h40, votre rendez-vous avec la bulle économique et Marie Viennot. La tension semble baisser d'un cran dans la crise entre le Liban et l'Arabie Saoudite, mais cette crise est loin d'être close. Le Premier ministre libanais Saad Hariri vient d'arriver à l'Élysée ce midi, 15 jours après sa démission surprise depuis Riyad. La médiation française est en action. Bonjour Olivier Poujade.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct de l'Élysée où Saad Hariri donc est apparu aux côtés d'Emmanuel Macron.
Oui, Saad Hariri est arrivé il y a une grosse demi-heure maintenant, une embrassade chaleureuse avec le président Macron. Les deux hommes sont actuellement en entretien et une partie de la famille de Saad Hariri sera également accueillie dans quelques minutes dans la cour de l'Élysée. A priori, sa femme et son fils aîné scolarisé à Londres, ses deux autres enfants qui étudient à Riyad, seraient apparemment, eux, restés en Arabie Saoudite, ce qui pourrait constituer un moyen pour le prince saoudien Ben Salman de conserver une certaine pression sur le destin et sur les décisions futures de Saad Hariri. Mais en soi, vous l'avez dit, cette visite est une réelle avancée diplomatique pour tenter de désamorcer les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran dans ce dossier libanais. Reste à savoir ce que tentera d'obtenir aujourd'hui Emmanuel Macron de Saad Hariri, premier ministre libanais démissionnaire, mais dont on ne sait pas si cette démission a été spontanée ou contrainte par son parrain saoudien qui considère Hariri un peu trop tendre vis-à-vis du Hezbollah pro-iranien. Emmanuel Macron va-t-il convaincre Saad Hariri de revenir sur sa décision de démissionner, une démission que le président Aoun, le président libanais, ne considère pas comme valable puisqu'elle n'a pas été annoncée dans le cadre de la constitution libanaise. Il reste donc de nombreuses interrogations sur l'avenir de Saad Hariri qui a toutefois annoncé ce matin, et c'est une information, qu'il serait de retour mercredi à Beyrouth.
Merci Olivier Poujade pour vos explications en direct de l'Élysée et merci à Gilles Gallinaro, pour les moyens techniques. Cette crise autour du Premier ministre libanais, elle est sensible dans une région déjà déstabilisée par plusieurs conflits, la Syrie, l'Irak ou encore le Yémen. La France tente donc, on vient de l'entendre, de calmer le jeu. Mais les initiatives et les propos d'Emmanuel Macron ne plaisent pas à l'Iran qui dénonce la partialité de Paris au Moyen-Orient. Le chef de l'État qui a encore prôné hier une politique ferme à l'égard de la République islamique afin qu'elle limite son programme balistique et son influence. La réaction de Téhéran ne s'est pas fait attendre ce matin, Siavoj Ghazi.
C'est Ali Akbar Velayati, le conseiller du guide suprême iranien, qui est monté au créneau pour critiquer la position de la France et plus personnellement celle du président Macron. Sur les questions de défense et du programme balistique, nous ne demandons la permission à personne. En quoi cela regarde Macron? S'il veut que les relations entre l'Iran et la France se développent, il doit essayer de ne pas s'ingérer dans de telles affaires, car c'est contraire aux intérêts nationaux de la France, a ajouté Ali Akbar Velayati. Cette déclaration est une réponse directe au président Macron qui a déclaré vendredi que l'Iran devait avoir une stratégie régionale moins agressive et s'était inquiété de la politique balistique de l'Iran qui à ses yeux apparaît non maîtrisée. Déjà vendredi, un porte-parole de la diplomatie iranienne avait critiqué les propos du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui avait dénoncé les tentations hégémoniques de l'Iran au Moyen-Orient. L'Iran est d'autant plus déçu par la position de la France que Paris a été le principal bénéficiaire de l'accord nucléaire avec des contrats entre l'Iran et les groupes automobiles français Peugeot et Renault, le groupe pétrolier Total ou encore Airbus qui doit livrer à l'Iran une centaine d'avions.
Correspondance à Téhéran, signée Siavoj Ghazi. Au Zimbabwe, 4 jours après le coup de force militaire, plusieurs milliers de personnes défilent à Harare en ce moment même. Des scènes de liesse dans la capitale, comme si le président Robert Mugabe avait déjà démissionné. Or, pour l'instant, le chef de l'État, âgé de 93 ans, est toujours en résidence surveillée avec sa famille. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
L'étau se resserre puisque la ZANU-PF, le parti au pouvoir, demande maintenant très clairement le départ de Robert Mugabe.
Oui, alors il faudra attendre, voir l'ampleur de la manifestation de ce matin, car après 37 ans de pouvoir absolu et d'interdiction de mouvements de contestation dans la capitale, beaucoup de Zimbabwéens n'osent pas encore trop y croire. Écoutez l'un des manifestants au micro de Valentine Rioux ce matin.
Nous ne voulons plus de lui. S'il vous plaît, laissez-le partir.
Trop, c'est trop, la partie est finie, qu'ils partent, disent aujourd'hui les Zimbabwéens à Robert Mugabe qui s'accroche, vous le disiez. Il est en résidence surveillée depuis mercredi, mais situation cocasse. Il s'est rendu hier, comme au bon vieux temps, dans une université pour assister à une sortie de promotion. Aujourd'hui, en tout cas, ce sont désormais 2 leviers, et 2 leviers importants, qui ont été actionnés dans le sens d'un départ. Après l'armée, l'ensemble des sections du parti au pouvoir, la ZANU-PF, lui ont demandé hier soir de partir. Le parti de Mugabe le lâche et prévoit de convoquer un comité central demain. En clair, les événements pourraient se précipiter dans les prochaines 24 heures. Sous couvert d'anonymat, un responsable de la ZANU-PF affirmait que si le président s'entêtait, il serait fait en sorte qu'il soit chassé du pouvoir ce dimanche. Devrait suivre, toujours selon cette source, une procédure de destitution mardi. Donc, une situation à suivre.
Merci Nabila Hamel pour vos explications. La COP23, la 23e conférence sur le climat de l'ONU, s'est terminée très tôt ce matin à Bonn, en Allemagne. Une COP marquée par des négociations compliquées, par la défection des États-Unis de l'accord de Paris. Après 15 jours de discussion, les 200 pays participants se sont toutefois accordés pour dresser à la fin de l'année prochaine un bilan collectif de leurs émissions de gaz à effet de serre. Cela permettra d'évaluer le chemin qu'il reste à parcourir si le monde veut rester sous les 2 degrés de réchauffement. Rendez-vous donc en Pologne en décembre 2018 pour la COP24 avec de nouveaux défis, explique l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot.
Tout le monde attend la prochaine COP qui arrive en Pologne, pays quasi climato-sceptique et adorateur du charbon. Il va falloir que d'ici là, chacun s'y mette et puis surtout que les États rattrapent la société. Pour dire à quel point lutter contre le dérèglement climatique est une bonne nouvelle pour la société, malheureusement, encore une fois, les États sont trop prisonniers de leur lobby. Le nucléaire en France, le charbon ailleurs, le pétrole encore ailleurs, et que ça nous empêche de construire une société beaucoup plus gaie, parce que franchement, dépendre du soleil ou du vent plutôt que de Poutine et des pétromonarchies du Golfe, c'est quand même plus rigolo.
Des propos recueillis par Véronique Rebérotte. Il était le seul candidat et sans surprise donc, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner, a été élu délégué général de La République En Marche. C'était à Lyon ce matin à l'occasion du premier conseil national du parti présidentiel. Ce fidèle d'Emmanuel Macron a été choisi à l'unanimité des quelques 750 membres du Parlement d'En Marche, moins 2 abstentions. Désigné pour 3 ans, il devrait quitter le porte-parole du gouvernement. Une élection sans surprise qui ne fait pas l'unanimité au sein du mouvement puisqu'une centaine de marcheurs ont rendu leur casquette hier. Pas très étonnant, explique le politologue Pascal Perrineau du CEVIPOF Sciences Po.
Quand on a vu naître, il y a un peu plus d'un an, cette organisation, ça rappelait ce que les politologues américains appellent les organisations as business firm, hein, c'est-à-dire des organisations qui s'inspirent du mode managérial et du mode entrepreneurial. Mais voilà, ces partis entreprises, il faut savoir que c'est des partis qui ne sont pas exempts d'autoritarisme comme, et de verticalité, comme c'est le cas dans les entreprises et dans les start-up. Et c'est vrai que La République En Marche a une image un peu de start-up politique. Eh bien, il y a une base entièrement dévouée et tournée vers le chef, puis il y a un chef, et c'est plutôt même les corps intermédiaires qui sont un peu écrasés. C'est un peu ce qui se passe dans La République En Marche. démarche d'aujourd'hui. C'était un peu un parti du même type qu'avait créé Ross Perot aux États-Unis à la fin du XXe siècle. Ross Perot, c'était le candidat issu du monde de l'économie qui avait cherché à perturber déjà le duopole entre démocrates et républicains. Il avait créé un parti un peu de ce type. Berlusconi, dans un autre univers, bien sûr, celui de la droite, avec Forza Italia, avait créé un parti, une clientèle très dédiée au culte de son chef et de son leader. La République En Marche, vous voyez, ressemble un peu à ces organisations, donc qui ne sont pas peut-être si nouvelles qu'on veut bien le dire.
Des propos recueillis par Stéphane Robert. Cet après-midi, ce sera au tour du bureau exécutif d'être désigné. Quatre listes sont en compétition. Ils entendent secouer l'ordre établi, y compris celui des grandes centrales syndicales. Le Front social organise aujourd'hui un rassemblement à partir du 17e arrondissement de Paris en début d'après-midi. Ce mouvement est emmené par Michael Wamin, ancien salarié des CGT chez Goodyear. Il est composé de plusieurs fédérations CGT et Sud et d'associations. Un Front social qui appelle à marcher sur l'Élysée pour protester contre la politique antisociale d'Emmanuel Macron, Laurent Kramer.
Le Front social incarne la voie la plus radicale dans le mouvement social, un mouvement qui appelle les centrales syndicales et la CGT en tête à boycotter toute négociation avec le gouvernement. S'asseoir à la table d'Emmanuel Macron ou du Premier ministre est une erreur, un jeu dangereux qui affaiblit les forces syndicales, estime Michael Wamin. L'ancien leader de la CGT Goodyear n'aspire à aucune fonction, aucun mandat, mais juge les leaders syndicaux, les grandes centrales syndicales sur la mauvaise voie, incapables de fédérer ce mécontentement social, un mouvement qui reste aujourd'hui confidentiel, mais très actif sur les réseaux sociaux et présent dans la rue dès le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Composé d'associations, de fédérations Sud et CGT, ce Front social estime que seul un mouvement unitaire massif dans la rue permettra de faire reculer le gouvernement.
Laurent Kramer, merci. Le Parti socialiste engage une procédure d'exclusion contre Gérard Filoche, conséquence d'un tweet désormais supprimé, un photomontage publié hier par le militant socialiste. Emmanuel Macron y est représenté avec un brassard frappé du signe du dollar et entouré notamment des drapeaux israéliens et américains. Il est 12h40 sur France Culture alors qu'Emmanuel Macron a relancé les emplois francs cette semaine pour les banlieues dans les pays émergents comme le Maroc pour créer des emplois. On crée aussi des zones franches, des parcs d'usines qui produisent pour l'exportation.
La bulle économique, Marie Viennot.
Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans une free zone. En français on traduit par zone franche, en anglais free veut dire à la fois libre et gratuit. Libre, l'entrée ne l'est pas. Dans une zone franche, il faut passer un contrôle. On est là dans une zone d'exception et d'exemption. Exemption à la TVA, exemption aux impôts qui sont réduits, voire nuls, exemption des droits de douane. La recette a plus de 2000 ans, mais avec la mondialisation, les zones franches font florès depuis les années 70. On en compte aujourd'hui 2260 à travers le monde, 500 de plus qu'en 2010, affirme François Bost, économiste géographe, pour qui les zones franches sont comme des oasis où tout fonctionne bien dans un environnement où tout est compliqué. C'est l'outil parfait pour développer l'économie des pays émergents, des sortes de paradis pour industriels. Nous sommes à TFZ, la Tanger Free Zone, l'une des 6 zones franches créées autour du port de Tanger, franc lui aussi. En 10 ans, 65 000 emplois ont été créés ici. Oui, une zone franche crée des emplois. Des emplois au SMIC pour la plupart. Au Maroc, il est à 260 euros par mois. Pas d'exemption au code du travail cependant, il y a des représentants élus, même si dans la zone franche, ils ne sont généralement pas syndiqués. Comme un air de bientôt vu. Au Maroc, la constitution garantit la liberté d'association, mais le pays n'a toujours pas ratifié la convention de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale. Dans un rapport sur les droits des travailleurs dans les zones franches marocaines, l'OIT évoque un climat antisyndical et des grèves nombreuses. Mais le rapport a 5 ans. Or, la situation a évolué, assure un ancien responsable de la zone franche de Tanger. Par le passé, c'est vrai qu'il y a eu des grèves parce que des entreprises étrangères se sont crues un peu tout permis, dit-il, mais aujourd'hui, c'est fini. Ici, on fabrique des pièces pour les automobiles et on affiche le taux d'absentéisme et les journées perdues. Ainsi nomme-t-on les jours de congé maladie. pourquoi cette zone franche plutôt qu'une autre ? La directrice de cette entreprise originaire du Michigan répond. Devise stable, pas d'impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, 8,75% les 20 années qui suivent, une relation saine avec les autorités marocaines et la proximité avec l'Europe qui n'est qu'à 15 km. Puis elle ajoute « Nous sommes heureux d'être au Maroc, car nous sommes sûrs que le Maroc ne fera jamais partie de l'Union européenne et ne sera donc pas soumis à sa pression. » Bienvenue dans une zone étatique libérée du risque de convergence sociale vers le haut. Choquant ? Non. Pragmatique pour cette entreprise nord-américaine. Chaque année, ses clients européens lui demandent de baisser ses prix de 5%. En France, on a des manifestations et on a aussi des zones franches, une centaine. Elles ne sont pas liées à une activité exportatrice, comme les free zones des pays qui émergent, mais à une grande pauvreté économique de la zone en question. Cette semaine, le président de la République a même relancé les emplois francs. Pour chaque CDI, créé en un lieu précis à définir, une entreprise pourra toucher 15 000 euros sur 3 ans. En France, on a de moins en moins d'usines, mais pour créer des emplois, on sait donner directement de l'argent aux entreprises, alléger leur fardeau social, même si ça ne va pas sans bruit, même si la zone France n'est pas encore franche de syndicats et de manifestations.
Merci Marie Viennot. La bulle économique est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de votre après-midi, ciel pluvieux dans les Hauts-de-France, nuageux en région parisienne, du soleil partout ailleurs et les températures 6 à Strasbourg, 8 à Lyon, 10 à Paris, 14 à Bordeaux et jusqu'à 15 à Marseille. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon. À la technique, c'était Pierrick Monsigny.